Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour
Ce
Guillaume.
Matin, n'en jetez plus, les scandales sont partout.
Oui, pour commencer, le scandale des travailleurs humanitaires continue de faire les gros titres de la presse britannique. Nouvelle révélation du Times ce matin. L'ex-directeur d'Oxfam en Haïti, mis en cause pour avoir fait appel à des prostituées, a été embauché au sein de l'association caritative alors même qu'il avait été expulsé 2 ans plus tôt d'une autre agence humanitaire britannique pour des faits similaires. D'autre part, interrogé hier sur la chaîne britannique Channel 4, une ancienne cadre d'Oxfam a, elle, dénoncé l'existence, je cite, d'une culture de l'abus sexuel. Selon elle, une enquête interne de l'organisation menée dans 3 pays entre 2013 et 2014 révélait déjà que plus de 10% des personnels déployés avaient été victimes ou témoins d'agressions sexuelles. Or, lorsqu'elle a tenté d'alerter sa hiérarchie, dit-elle, le rapport a tout simplement été enterré. Enfin, ultime coup dur pour l'ONG britannique. Hier, l'actuel président d'Oxfam International, ancien ministre des Finances au Guatemala, a lui été arrêté dans le cadre d'un scandale de corruption. Et puis toujours à la une de la presse outre-Manche ce matin, l'histoire d'une vaste escroquerie dans les colonnes du Sun et du Daily Mail. Un réfugié irakien raconte comment il a planifié des centaines de fausses plaintes à l'encontre de soldats britanniques. L'homme admet d'ailleurs avoir lui-même porté devant la justice sa propre allégation mensongère. Dans une série d'aveux déconcertants, il détaille comment ses clients ont produit de faux documents pour étayer leur demande d'indemnisation, avec généralement la complicité de médecins et de fonctionnaires irakiens. Toutes ces réclamations étaient ensuite envoyées à un cabinet d'avocats britanniques. C'était comme une usine de fabrication de plaintes, dit-il, et peu importe si celle-ci était vraie ou fausse, tout ce qui importait, c'était de gagner de l'argent. Au total, le ministère britannique de la Défense a dépensé 13 millions de livres sterling pour le règlement d'environ 300 plaintes.
Et puis alors, autre scandale, Thomas, à la une, cette fois-ci, de la presse israélienne.
Oui, hier, la police israélienne a recommandé à la justice d'inculper le Premier ministre pour corruption, fraude et abus de confiance, écrit The Times of Israel, lequel compile sur son site les réactions indignées de la classe politique, à l'instar du leader du parti travailliste d'opposition pour qui, je cite, l'ère Netanyahou est terminée. Alors de quoi est-il aujourd'hui soupçonné ? La première affaire a trait à des cadeaux pour un montant d'environ 300 000 dollars qu'il aurait reçu d'un homme d'affaires australien et d'un producteur hollywoodien. Et puis l'autre affaire est liée à des conversations que Netanyahou aurait eues avec le patron du journal Yediot Aharonot, plus grand tirage de la presse israélienne, généralement assez critique envers le gouvernement. Les deux hommes auraient discuté des moyens de freiner l'expansion d'un quotidien gratuit publié par un milliardaire américain. Objectif pour Yediot Aharonot, limiter la concurrence en échange toutefois d'une couverture plus favorable de l'action du Premier ministre. Quoi qu'il en soit, la question qui se pose désormais est de savoir si Israël verra effectivement son deuxième dirigeant consécutif inculpé, interroge Bloomberg. Réponse, rien n'est moins sûr. Pourquoi ? Tout d'abord parce que Benjamin Netanyahou, lors d'une intervention télévisée hier soir, a de nouveau clamé son innocence et exclu de démissionner. Et puis surtout, la décision de mettre officiellement le Premier ministre en examen dépend à présent du procureur général, lequel pourrait mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de trancher, sans compter, rappel pour sa part, The New York Times, que le dit procureur reste redevable au Premier ministre de l'avoir promu à ce poste. Et d'ailleurs, il est lui-même accusé d'avoir traîné les pieds pour retarder l'enquête.
Et direction à présent les États-Unis, où décidément la politique ne ressortira pas non plus grandie ce matin.
Oui, hier, l'avocat personnel du président américain a déclaré qu'il avait versé 130 000 dollars de sa poche à une actrice de cinéma porno connue sous le nom de Stormy Daniels, laquelle avait affirmé avoir eu une relation sexuelle avec le magnat de l'immobilier en 2006. Michael Cohen a précisé qu'il n'avait pas été remboursé par le président américain de la somme versée. Il assure par ailleurs que le paiement était légal et ne correspondait en rien à une contribution de campagne. En revanche, selon The New York Times, il a refusé de répondre à plusieurs questions, notamment celle de savoir pourquoi il avait effectué ce versement, tout en rappelant que Trump a lui toujours nié cette relation. Il s'est contenté de déclarer sur CNN « Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas vrai que cela ne peut pas vous causer de tort ou de dommage. Je protégerai toujours Monsieur Trump. »
Et puis on termine par un coup de théâtre aux Pays-Bas.
Oui, alors le ministre néerlandais des Affaires étrangères en poste depuis seulement 4 mois a démissionné après avoir admis devant les députés qu'il avait menti sur sa présence au cours d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, c'était en 2006. « Je n'aurais vraiment pas dû faire ça, je suis désolé, je ne vois pas d'autre option aujourd'hui que de présenter ma démission à Sa Majesté le Roi », a-t-il déclaré, manifestement ému. L'histoire s'est même terminée dans les pleurs, raconte ce matin le NRC. Le chef du gouvernement lui-même essuyant quelques larmes avant de prendre le bras de son ministre, lequel ne pouvait plus parler au bout de quelques phrases seulement. Alors aussitôt après cette démission, une motion de défiance a été déposée contre le Premier ministre, motion largement rejetée. Toujours est-il que c'est là le premier scandale qui secoue la fragile coalition à quatre partis formée à l'issue de négociations laborieuses en octobre dernier, et ce à 5 semaines d'élections municipales.